rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Finalement, en dépit de sa volonté, Alexandra a passé tout l'hiver à Giacando. Ses deux tentatives de départ en direction de l'Assa ont échoué. Alors Alexandra et Afour continuent de travailler sur des textes, en particulier sur la vie de Gesard de Ling, ce poème épique le plus célèbre des populations tibétaines et mongoles, et qu'elle éditera plus tard quand elle sera revenue et qu'elle sera indigne. En juillet 1922, un grand espoir naît enfin. En effet, un militaire britannique, géographe, arrive à Giacando et il possède des cartes géographiques qu'Alexandra n'a pas du tout. Alors ces cartes, certes, sont parfois encore incomplètes, mais d'un intérêt très grand pour Alexandra. Parce que jusqu'à présent, elle marche au jugé. Et le militaire voyageur lui indique un secteur d'où personne n'est encore parti pour gagner l'Assa, le Yunnan, province chinoise bordant le coin sud-est du Tibet. Évidemment, cela réjouit Alexandra. En plus, personne n'est encore passé par là et donc elle y passera. Mais il faut qu'elle se fasse oublier encore pendant quelque temps. Elle écrit à Philippe le 29 août 1922, donc toujours de Kansho, ou plus communément appelée Gansu, où elle est installée dans un petit temple taoïste. Le temps est beau, extrêmement beau. Les couchers de soleil sont merveilleux, les montagnes environnantes prennent des teintes esquises, comprenant toute une gamme de mauve, de rose, de bleuâtre. C'est un vrai régal pour les yeux. Pas très loin, au sud, la neige demeure pendant l'été à moins de 4000 mètres. Ce doit cependant, à mon avis, être plutôt une question d'exposition, et je crois bien que l'autre versant de ces mêmes pics doit être libre de neige. Au Koukounor, pas très loin d'ici, la neige fond pendant l'été à 4500 mètres d'altitude. Et dans l'Himalaya, on peut monter jusqu'à 5500 mètres et même 6000 pendant juillet et août sans trouver la neige. Alexandra reste toujours sensible aux beaux paysages, mais toujours aussi réaliste, car elle ajoute au bas de sa lettre: dès que j'aurai reçu les fonds et une lettre de toi me permettant de faire des plans, je partirai, même en plein hiver. Je suis assez aguerrie au froid. Je ne crois pas que je trouverai en cours de route une température descendant plus bas que 30 ou 35 degrés sous zéro, à moins de remonter vers la Mongolie, où le thermomètre enregistre moins 45 degrés. En m'achetant une peau de mouton supplémentaire, cela pourrait aller. Les distances en Chine sont énormes, les moyens de communication très lents. Ces deux conditions combinées font que l'on s'éternise en voyage. En novembre 1922, elle est toujours à Kansho. Kansho, on l'appelle plutôt aujourd'hui Gansu. Alexandra continue de travailler et elle attend les fonds. La neige qui tombait le jour où je t'ai envoyé ma dernière lettre n'a pas été de longue durée. Il fait de nouveau très beau et cela me donne de l'impatience. Il serait agréable de voyager en cette saison, beaucoup plus agréable dans ces parages que pendant les pluies ou les fortes chaleurs de l'été. Je continue à m'occuper de mon Iliade tibétaine. Afour, qu'elle appelle maintenant Albert, dès le point du jour, s'assied sur son lit, enroulé dans ses couvertures, car il n'a pas de feu et il gèle dans sa chambrette. Et dans cette position, il lit les manuscrits assez difficiles à déchiffrer que j'ai collectionnés concernant le roi Gesard. Il annote ce qui est saillant, ce qui diffère des notes que j'ai prises à Giacendo, et à l'heure du déjeuner m'apporte son travail. Il se pourrait que dans 2 mois, j'ai terminé mon livre, mais je ne puis en répondre absolument. Alexandra continue donc d'écrire aussi des articles et les renvoie à Philippe pour les transmettre aux journaux concernés et souvent au Mercure de France. « Je t'envoie l'article « Germanisation au Kansu ». Regarde-le et vois si tu dois l'envoyer au Mercure. Après l'accueil fait à celui-ci sur l'extraterritorialité, je ne sais plus ce que ces gens peuvent avoir dans la cervelle. » Il y a aussi quelques pages sur le messianisme tibétain. Et de plus, un conte que tu peux garder pour toi, propose-t-elle à Philippe. « Je ne puis pas publier cela, c'est un genre trop léger. » Il y a en tibétain un livre célèbre concernant la vie d'un personnage historique mais devenu un héros de légende auquel on prête les aventures et les hauts faits les plus abracadabrants et aussi les plus salés. Ce livre rappelle à la fois Rabelais, Boccace et les contes de Balzac, le tout habillé à la mode tibétaine. Le conte que je t'envoie est tiré de cet ouvrage. Il ne siérait pas, je pense, qu'écrivant des livres philosophiques, j'inscrive mon nom sur un bouquin qui rivaliserait avec les 1001 nuits de la traduction de Mardrus. Mais commercialement parlant, l'entreprise peut être lucrative. Vois le succès de Mardrus. Alors, Charles-Joseph Mardrus, il est né, exactement comme Alexandra, en 1868. Et il a traduit, encouragé d'ailleurs par Stéphane Mallarmé, de 1898 à 1904, 6 ans, une nouvelle version des contes des Mille et une Nuits en 16 volumes et 116 contes, dans une perspective plus érotique, aux textes non expurgés et faisant ressortir les transgressions et les ellipses amoureuses. Donc, Alexandra continue sa lettre en disant « Bon, tu me diras ce que tu en penses, c'est pourquoi je t'envoie ce conte à titre d'échantillon. Maintenant, les récits tibétains ne concernent pas tous des plaisanteries scabreuses, il y a aussi dans ce livre des farces, d'un autre caractère. J'écris à quelqu'un qui me paraît bien placé de m'acheter l'ouvrage en question. » On verra ce que l'on peut en tirer. Je n'ai pas besoin de te dire que mes goûts me portent vers un genre de littérature plus relevé. Mais la question monétaire qui se pose oblige parfois à travailler à des besognes auxquelles on ne prend nul plaisir. En décembre 1922, ils sont toujours à Kansho, c'est-à-dire Gansu, et elle écrit « Le froid s'accentue, la neige qui est tombée il y a une dizaine de jours ne fond guère. Elle demeure en une mince couche qui suffit à donner au paysage un aspect complètement hivernal. Il fait froid ici, plus froid qu'à Kumbum, bien que l'altitude soit moins élevée. Nous ne sommes qu'à 1600-1700 mètres, mais Kumbum est niché entre des montagnes qui l'abritent, et Kansho se trouve au milieu d'une vaste plaine, et quand le vent y souffle, amenant du sable jaune, on se croirait proche du Sahara, chaleur en moins évidemment. Avec 20 degrés sous zéro, le soir, cette ventilation est superflue. La houille est rare, on s'en procure difficilement. Il m'arrive de rester des journées entières sans feu, mais heureusement c'est assez rare. Mon petit s'ingénie, il amalgame toute la poussière du charbon avec de la terre et de la paille. On brûle cela à la cuisine et dans ma chambre aussi quand le charbon manque. J'espère bien que cet hiver sera le dernier que je passerai dans un pays froid et je suis de plus en plus convaincue que celui qui veut vivre facilement, confortablement et à peu de frais doit s'installer dans un pays où il peut éviter la nécessité de se chauffer. Mon livre avance. Évidemment, ce ne sera pas un manuscrit définitif. Je le retoucherai un peu avant de le recopier pour l'offrir à un éditeur. Mais tout le gros travail sera achevé et 15 jours suffiront à le mettre au point. J'ai un grand désir d'aborder l'ouvrage que j'ai à cœur. La traduction de la version tibétaine de la Prajnaparamita. Mais c'est un gros travail. Je ne puis guère m'y mettre que si j'ai devant moi la perspective d'une bonne année de tranquillité. À Kumbum, j'ai dégrossi la traduction des deux volumes de l'ouvrage. Il en reste trois. Chaque tome comprend environ 900 pages. Je vais bien entendu condenser la matière pour ne pas produire quelque chose de trop volumineux. Je ne vois personne qui m'achèterait cet ouvrage en France. Et bien que cela me contrarie, je serai probablement obligé de faire ma traduction en anglais pour l'offrir à l'université d'Harvard, en USA, qui publie Oriental Series, ayant pour cela un fonds considérable. 35 volumes ont déjà paru. Alors, la littérature Prajnaparamita, ou Perfection de la Sagesse, est un ensemble de textes de bouddhisme Mahayana développant le thème de la perfection, ça c'est paramita, et de la sagesse transcendante, c'est prajna, de connaître. Début janvier 1923, ils sont toujours à Kansho et Alexandra en profite pour parler de l'avenir d'Afour. Afour, Albert, Afour Yongden, dont on a beaucoup parlé, Albert, qu'elle appelle maintenant comme cela, et qu'elle commence à appeler aussi mon fils adoptif. Depuis avril 1914, donc il y a presque 9 années, il quittait sa famille pour suivre Alexandra, pour s'instruire, et sans doute avec le désir de voir l'Occident. Il la sert de toutes les façons, dit Alexandra, pour la langue, l'écriture, mais aussi toutes les corvées durant les voyages, la nourriture, etc. Elle dit qu'elle l'a traîné partout, où il aurait pu être tué par des bandits ou gelé dans les neiges. Son inquiétude à elle, Alexandra, vient du fait qu'elle a conscience que durant ce très long parcours à pied qu'elle va bientôt faire pour réussir son projet final, c'est-à-dire arriver à Lhasa, il peut lui arriver malheur, et notamment sa propre mort. Elle donne alors ses instructions à Philippe concernant Albert. Les voyageurs qui passaient à Kukuner payaient leurs domestiques 50 à 70 dollars par mois. Ces domestiques volaient leur maître tant qu'ils pouvaient, prélevant des profits sur tout et se faisaient nourrir richement. Je compare à ces rudes imbéciles mon petit demi-lettré qui est venu avec moi. Il a été honnête, avec scrupule, bien que depuis longtemps ce soit lui qui ait la caisse en main. Il a été dévoué, plus que beaucoup de fils ne l'auraient été pour une vieille mère, parfois ronchonneuse. Il a eu une confiance aveugle en moi, parce que, selon l'usage oriental, il me considérait comme son maître spirituel, qui lui enseignait la doctrine du Bouddha. Pourrais-je lui dire que j'ai abusé de sa candeur, que je l'ai trompé, que je l'ai renié, toutes mes promesses si souvent répétées ? Alors, Alexandra évalue donc ce qu'elle devrait à Albert, à Four. 40 roupies de gages par mois pour toutes ces années, évaluant environ 4 francs la roupie, cela ferait donc 18 450 francs pour ces 9 années. En fait, ce que craint Alexandra, c'est tout simplement de mourir en abandonnant ce garçon. Alors, elle supplie une fois encore Philippe. « Une des choses les plus agréables que tu pourrais faire pour moi, toi qui m'as été dévouée tant de fois, ce serait de me rassurer au sujet de mon fils adoptif. Je suis plus que mal à l'aise à son sujet maintenant. Je continue à jouir de ses services. J'ai encore à lui demander qui ne sont pas de ceux auxquels se plierait un domestique. Nous allons partir en plein hiver, dans quelques jours, pour traverser le Gobi, avec des températures de 25 degrés sous zéro, et ses vieilles pelisses fourrées sont bien amincies. Il a passé tous ces mois derniers sans feu dans sa chambrette, parce que le combustible était coûteux et qu'il ne voulait pas augmenter ma dépense. Je pensais, il aura sa récompense. Mais s'il ne devait pas l'avoir, pourrais-je continuer à le tromper, à le voler, en somme, c'est le mot propre. J'ai cela sur la conscience, c'est un pesant souci. Rassure-moi, mon grand cher, dis-moi que tu regarderas paternellement ce garçon. J'ai éprouvé de grandes peines dans ma vie, je ne voudrais pas en causer une affreuse déception à ce petit. Nous n'avons, heureusement, pas d'enfant, aucune charge, aucune responsabilité. Pourquoi, au lieu d'une bonne action dont nous recueillerons la récompense immédiate, mettrions-nous dans notre vie un acte de noire et cruelle ingratitude ? Vraiment, je m'étais reposée sur toi pour veiller sur ce garçon si je venais à mourir et pour payer ma dette. J'espère, mon bon ami, que tu ne m'en voudras pas de m'être étendue si longuement sur ce sujet. Tu comprends aisément mes sentiments. Ils sont faits d'une part d'honnêteté et d'autre part d'égoïsme, où j'ai l'habitude d'analyser mes sentiments et je ne m'attribue pas plus de vertu que je n'en ai. Toutefois, quand même, je voudrais vous rappeler qu'elle va toucher l'héritage de sa mère. Donc oui, c'est une bonne action de penser à remettre à son fils adoptif aux mains de Philippe au cas où lui arriverait malheur. Fils adoptif d'ailleurs qui ne l'est toujours pas, bien sûr, car elle apprendra en tant que femme qu'elle doit avoir l'autorisation de son mari. Mais tout cela, c'est pour beaucoup plus tard. Il fait très froid quand chaud, moins 25, 26 degrés, mais le soleil est présent. Et fin janvier 1923, Alexandra et Albert se mettent en route. Cela représente plusieurs milliers de kilomètres et une durée de plusieurs mois. Février 1923, je viens d'arriver à Sochaux, après un voyage de 7 jours à travers des régions désertiques qui m'ont, à certains endroits, rappelé le Sahara. À d'autres, le bled aride des environs de Gabès. Dunes très basses, puis plaine après plaine, où ne poussent que des herbes épineuses et une sorte d'alpha. Pas d'eau, sauf à des points éloignés où l'on trouve une auberge misérable, mais pas plus misérable après tout que beaucoup d'autres en Chine. Le temps a été très froid au départ, un minimum de 22 degrés sous zéro. À 11 heures du matin, dans ma chambre, le soleil brillant, j'ai noté 8 degrés sous zéro. Dans les auberges, on couche comme partout au Kansu, en Mongolie, etc., sur des kangs, c'est-à-dire une plateforme en maçonnerie creuse dans laquelle brûle du crottin de cheval mêlé de paille. Oh, cela ne sent pas bon, mais on a très chaud pour dormir. Parfois si chaud qu'on se sent rôtir, mais sans cela, on gèlerait. Nous allons continuer sur Anchi, où nous arriverons dans 8 ou 10 jours. avril 1923, elle arrive à Lancho et elle y trouve une seule lettre de Philippe. Elle s'emploie à expédier par la poste le plus de colis possible pour ne conserver que les choses indispensables. Mais les temps ne sont pas sûrs et elle reprend un peu de politique dans sa lettre. Elle écrit « Un nouveau déchaînement de la guerre civile se prépare. Quatre provinces, dont le Kansu, vont attaquer le gouverneur usurpateur du Sichuan. Les soldats sont en marche, répandant la terreur partout où ils passent, vivant, eux et leurs bêtes, sur les gens du pays. Ces derniers enfouissent ce qu'ils possèdent et se sauvent. C'est une désolation. Une grande expédition se prépare aussi contre le président de la République à Pékin. C'est le gouverneur de la Mandchourie qui la dirige. J'avais l'intention d'aller visiter Shantou, le chef-lieu du Sichuan, parce que l'époque est trop tardive maintenant pour entreprendre une tournée en Mongolie. Il commence à y faire une chaleur extrême dans les déserts de sable, mais la route sera-t-elle suffisamment libre de soudards, des soudards, c'est-à-dire des braves, comme on dit en style chinois, pour me permettre une excursion? Je n'en sais rien, et personne n'en sait davantage. En Chine, les nouvelles ne circulent pas. On n'entend que des racontars. Il faudra sans doute que je m'en aille au hasard, m'informant en cours de route et faisant au besoin les détours que les circonstances indiqueront. Je crois t'avoir dit que le bandit Semenov a réorganisé ses troupes et va attaquer les bolcheviks qui détiennent la capitale mongole. Il n'y a plus de Chinois en Mongolie. Ils ont été délogés par les Russes. Tu n'as pas idée des conditions de vie à l'intérieur de la Chine, et plus encore aux frontières. C'est la confusion, un chaos que balaient de soudaines tempêtes, des brigands partout, des autorités qui ne valent pas mieux. On peut à tout moment être pris, rouler dans une vague, n'avoir que la ressource de s'enfuir à bride, abattu, ou d'aller se cacher dans un recoin. Oh, je t'assure que pour qui aime l'aventure, il y en a tout dans toute cette partie de l'Orient. J'ai décidé en principe d'avoir terminé ces pérégrinations à la fin de cette année. Je dis en principe, car l'on est bien peu maître de décider quoi que ce soit, ici moins que partout ailleurs. Le 31 mai 1923, elle est au Sichuan, qui se situe au nord du Yunnan, à l'est du Tibet. C'est une région très montagneuse, et son accès à cette province a toujours été difficile. Des sommets hauts de 6000, voire 7000 mètres. Un proverbe chinois dit « Le chemin du Sichuan est plus difficile que de monter au ciel. » Alexandra écrit encore une lettre à Philippe. « Voici, mon bien cher, que les ennuis que je craignais me tombent dessus. On se bat au sud du Guangyuan, où je suis. Les marchands ne passent pas sur la route et l'on dit que les villageois se sont enfuis, mais l'on dit aussi qu'une étrangère pourrait passer. Cela signifie entre deux combats. Je n'aime pas du tout ces exercices-là. Ils m'ont un peu amusée au Shanxi, au début de mon séjour en Chine. Maintenant qu'ils n'ont plus l'attrait de la nouveauté, ils me fatiguent tout simplement. D'autant plus que je n'ai plus avec moi des hommes à moi, ou simplement même quand je suis venue de Pékin, des Tibétains dont je parle le langage et connais les habitudes et qui ne me lâcheraient pas s'il survenait des difficultés en cours de route. Mais aujourd'hui, les Chinois qui portent ma chaise ou ceux qui transportent mes bagages se sauveraient au premier coup de fusil et me laisseraient là avec mes paquets au milieu de la route. Je ne puis pourtant pas demeurer en route. Je suis depuis 2 jours hébergée à la mission catholique où il n'y a qu'un prêtre chinois qui essaie de baragouiner latin avec moi. Tu peux penser combien la conversation doit être intéressante. La langue de Virgile ne m'est pas précisément familière. La mission est pleine de femmes. Les maris de certaines sont des officiers partis à la guerre. Et tout ce monde ne fait rien que bavarder du matin au soir et manger. Il y a longtemps que je n'ai pas fait si bonne chère. J'ai aussi été invitée à la mission protestante où il y a 2 Anglaises. Le dîner était là mieux servi, mais infiniment moins plantureux. Le curé chinois a l'air cossu. Il veut me faire boire du vin, de la bière, que je refuse, à son grand étonnement. Il m'a donné de bonnes confitures, du beurre en boîte pour le voyage, et les Anglaises m'ont fourni des gâteaux secs. Le 24 juin, elle est arrivée dans la capitale du Sichuan, Shangdu. Shangdu, Shangtu, plusieurs noms, et surtout aujourd'hui. Et on dit qu'aujourd'hui, c'est la ville des hibiscus. Mais ce n'est certes pas la vision d'Alexandra. Je suis arrivée assez mal portante, par suite, je crois, de la forte chaleur et surtout de l'eau contaminée dont j'avais dû user en cours de route. Bien que je la fasse bouillir, celle-ci demeure dégoûtante. Mais jugez-en. À cette époque de l'année, les paysans déversent le contenu des fosses à vidange dans les rizières inondées. Alors, ce que l'on boit, c'est tout simplement une décoction de matière fécale. Laissons à part le dégoût. Bref, une mauvaise diarrhée tournant à la dysenterie nous a pris, Albert et moi, mais moi plus fortement que lui. Je ne pouvais plus manger, plus me tenir debout, la tête me tournait, et dès que je me remuais, avec cela une somnolence continuelle. Dès mon arrivée, je suis allée chez les religieuses franciscaines attachées à la mission française. Je dois rester ici quelques jours pour me soigner, impossible de me remettre en route dans l'état où je suis. Alors les médecins croient à la dysenterie. Mais elle refuse qu'il la soigne avec des piqûres. Alexandra a peur des piqûres. Finalement, elle se rétablit le 14 juillet et ils embarquent sur la rivière qui coule de grosses eaux rapides et promet une navigation express. En août, ils sont à Ningyanfu. En septembre, à Yanxin. Elle abandonne sa chaise à porteur et voyage à cheval. Et fin septembre, il se trouve à Liqian, la dernière ville du nord-ouest du Yunnan. 28 septembre 1923. Alexandra écrit à Philippe sa presque dernière lettre avant de commencer sa grande aventure. Et tu te dis, où veut aller ma vagabonde? Je ne puis guère le savoir au juste. Je tente une nouvelle et dernière aventure. Où me conduira-t-elle? C'est mystère pour moi. Tout ce que je puis prévoir, l'hiver étant proche, ce sont de durs, très durs moments à passer. Et l'état actuel de ma santé n'est pas précisément celui que requierrait une entreprise de ce genre. Je compte laisser quelques mots que le missionnaire t'enverra par la poste. Puis, mon très cher Nouchi, ce sera fini pour longtemps, bien des mois. Je ne crois pas pouvoir t'écrire avant mars ou avril prochain. Te voilà prévenu, ne t'inquiète pas. Pense à moi de temps en temps, mon très cher. Tâche de te représenter une tente minuscule, seule dans un coin de montagne, par un soir où le froid pique, où la terre durcie sonne sous les pas, un feu de bouse de vache flambant devant la tente, avec une marmite de thé plantée sur trois pierres, et deux tout menus voyageurs, leurs bonnets enfoncés jusqu'aux yeux, assis autour de ce primitif foyer. Et s'ils ne revenaient pas de leur aventureux voyage, garde un bon souvenir aux explorateurs en miniature qui auront tenté une chose que leurs glorieux confrères, dont les noms sont célèbres, l'auraient peut-être jamais eu le cœur d'entreprendre. Et oui, la suite sera bien difficile comme vous l'imaginez. Et c'est sans doute, comme vous l'avez peut-être lu dans son livre, mais Alexandra vaincra. Et nous tâcherons la semaine prochaine de vous en conter la fin. Bonne semaine !